Bonjour, nous allons faire une lecture dans le psaume 138, psaume de David. Seigneur Jésus, je te prie que cette prédication bénisse le cœur de mes frères et sœurs et réjouisse chacun d'entre eux et leur donne une bonne vision au sujet de ce que tu aimes et de ce que tu désires. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Merci Jésus. Psaume 138, verset 1, c'est David qui dit « Je te célèbre de tout mon cœur ». Je chante tes louanges en présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Il y a déjà quelques dizaines d'années, T.L. Osborne écrivait dans un de ses livres « Les lieux de culte sont des endroits où nous pouvons nous réunir au chaud l'hiver » et au frais l'été. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que un lieu de culte n'a rien de plus saint qu'un autre endroit où se trouve un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu se trouve quelque part, alors maintenant cet endroit est saint. Là où tu es, c'est une terre sainte, mon frère, ma sœur. Et il est bien évident que le lieu de culte est nécessaire. On a besoin d'un lieu de culte, à moins que l'église locale ne compte que 10 ou 12 personnes, alors à ce moment-là, un salon peut faire l'affaire. Il n'y a pas de mal à ça, Dieu n'est pas offensé. Vous savez, du temps de Luther, quelqu'un qui se tenait mal en chair pour prêcher, on disait qu'il déshonorait la chair, ils avaient une vue, n'est-ce pas, très légaliste de la chose. Mais aussitôt que le vent du Saint-Esprit souffle et que des milliers de personnes se convertissent, il devient nécessaire d'avoir des locaux assez grands pour pouvoir les réunir afin de les enseigner, de participer au culte et de faire tout ce qui est à faire dans un lieu consacré à Dieu, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages, les enterrements, la Sainte Cène, le baptême pour les morts, enfin, toutes ces choses. Puis, quand il y a des milliers de personnes qui se convertissent, il faut un peu d'ordre. Il faut donc nommer les responsables. Alors, bien sûr, tout ça, ça peut se pervertir. Et ça a été le cas dans le Saint-Temple à Jérusalem. Vous avez vu que David parle du Saint-Temple de Jérusalem. Il y a eu des choses qui ont été perverties, pas par la faute de Dieu, mais évidemment de l'homme. Mais c'est pas parce que Dieu n'aimait pas le Saint-Temple ou les Saint-Temples qu'il les a détruits, mais c'est parce que le peuple et surtout le clergé péchait. Ça ne signifie absolument pas que Dieu ne veut pas de temple ou de lieu de rassemblement. À partir de combien de membres un local peut être considéré comme un lieu de culte? Rares sont les participants qui ont un salon qui peuvent contenir 200 personnes le jour du Seigneur. Et c'est beaucoup plus pratique de réunir beaucoup de monde dans un seul lieu que de se réunir 10 ou 12 personnes pour les enseigner. Si vous avez 10 ou 12 personnes, ça va. Dehors, dans un salon, dans une cuisine, n'importe où. Je connais un pasteur à Paris qui disait que Dieu lui avait donné Paris, n'est-ce pas? Alors, il faisait son culte dans sa cuisine, il y avait juste lui et sa femme. Dieu lui avait donné Paris. Il s'était fâché avec un autre pasteur qui voulait venir pour créer une église. Là, oui, la religion, ça peut rendre dingo un peu, hein. C'est quand même plus facile, n'est-ce pas, si vous avez 1000 personnes de faire un culte dans un grand endroit que de faire des centaines de cultes dans des centaines de salons avec chaque fois 12 personnes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ceux qui sont peu nombreux adorent critiquer, ils adorent juger, ils adorent diaboliser, ils ne cherchent pas à comprendre ce que je leur dis, ils veulent toujours trouver du mal. Et ceux on charge une grande congrégation, ceux-là, eh bien, critiquent pas et savent très bien que c'est nécessaire. C'est les petits, en général, qui aboient fort, vous savez. Les petits chiens, vous avez vu, les petits chiens, ils aboient fort, ils sont toujours en train de waouh, waouh, waouh. Voilà. Les premiers disciples aimaient se réunir le jour du Seigneur. On voit ça dans Acte 20, verset 7, pour rompre le pain. Et Paul enseignait que, il enseignait dans une de ses réunions, il faisait une de ses réunions dans une chambre qu'ils appelaient la chambre haute, où ils étaient assemblés, il faisait chaud, et, parce qu'il y avait beaucoup de lampes allumées, et c'est là que le fameux Eutychus est tombé par la fenêtre. Hein, vous trouvez ça dans Acte 20, 7, 12. La chambre haute, c'était un de leurs lieux de réunion. Est-ce que c'était un lieu considéré comme sacré? Je pense pas. Je ne le pense pas. Ce qui rendait ce lieu sacré, c'était la présence des disciples en qui Jésus vivait. C'est ça ma pensée. Faut pas déformer ma pensée. C'est ça ma pensée. Donc, comme eux, nous avons besoin d'avoir un lieu où nous rencontrer qui soit assez grand, mais ce lieu ne peut pas être appelé l'Église, parce que l'Église, eh bien, ce sont les disciples assemblés. Là où deux ou trois sont assemblés, voilà, c'est l'Église. Vous voyez? L'idée « je vais à l'Église », dire « je vais à l'Église », c'est faux. L'Église, c'est nous, nous sommes les membres du corps de Christ, nous sommes l'Église. Maintenant, nous avons été faits par Dieu et nous avons une conscience. Par exemple, nous pourrions louer, et nous l'avons déjà fait, une salle des fêtes pour rassembler quelques centaines de chrétiens, pour les enseigner, et pour louer Dieu, pour prendre la Sainte Cène, et personne, aucun disciple né de nouveau n'y voit un outrage. Par contre, à cause de notre conscience, nous ne pourrions pas, par exemple, louer un cinéma porno. Le dimanche matin, on pourrait pas, voilà, le cinéma porno, il marche pas le dimanche matin, on fait un deal, n'est-ce pas, avec le directeur, et puis on fait notre culte là-dedans le dimanche matin. Pour moi, là, non. J'ai une conscience. Je pense que vous aussi. On peut pas louer Dieu, prendre la Sainte Cène dans un endroit où il y a plein de péchés qui se passent, aussi bien sur l'écran que dans la salle, hein. Pourquoi? Parce que nous sommes puritains? Non, je pense pas. Nous ne voudrions pas cela parce qu'un tel lieu est chargé de mauvaises puissances de ténèbres, c'est tout. De même, nous ne pourrions pas inviter des inconvertis pour faire la fête dans un endroit où nous pratiquons l'ordonnance du baptême. Et puis, voilà, les inconvertis commencent à chanter « Ah, il est des nôtres, il a vu son verre comme lui ». Non, ça va pas. On a une conscience, on peut pas, voilà. Bon, évidemment, dans les pays chauds, ils n'ont pas ce problème. Ils font des baptêmes dans les lacs, dans les rivières. Mais nous, nous sommes bien obligés d'avoir un endroit spécial pour baptiser, ne serait-ce que l'hiver. L'hiver, c'est quand même long ici, hein. Si chaque fois, il faut attendre l'été pour faire les baptêmes. Donc, il nous faut un endroit, un baptistère. Je me souviens d'avoir baptisé des gens dans des baignoires. J'ai fait ça parce que il y avait rien d'autre, on pouvait pas faire autrement. Mais je suis un peu comme David, habité dans un château et baptiser les gens là où je me lave. Je trouve ça indigne de la gloire de Dieu. C'est ma conscience. Donc, on a consacré un endroit dans le château pour faire les baptêmes. Alors maintenant, réfléchissons. Permettriez-vous à un couple inconverti d'aller passer une nuit dans ce local, là où nous avons le baptistère? Moi, je peux pas. J'ai une conscience des choses. Je me dis, c'est quand même un endroit où il se passe des choses sacrées. Et voilà, je vais mettre ces inconvertis qui vont faire N'golo là-dedans. Non, ça me choquerait. Et c'est comme ça que l'idée de créer un endroit spécial pour y faire des choses spéciales, est né. Je suis désolé, mais on ne mange pas au WC. On ne défèque pas dans le salon. On ne dort pas dans l'escalier. C'est peut-être mon côté suisse, mais bon, je crois qu'il y a un endroit pour chaque chose. Alors évidemment, on peut juger, on peut critiquer, on peut condamner. C'est tellement facile. Quand nous serons partis d'ici, du château, nous consacrerons un endroit là où nous allons pour y faire ce que nous appellerons un temple. Pourquoi nous donnerons ce nom à ce lieu précis? À cause de l'étymologie. Le mot temple, étymologiquement parlant, ça signifie espace séparé du monde. C'est pourquoi on appelait la propriété du château ici le sanctuary, parce que ça veut dire temple, ça veut dire espace séparé du monde. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, on le sait. Et nous sommes séparés du monde. On est quand même dans le monde, hein. Mais nous sommes, en tant que disciples, des temples visitables, accessibles, ouverts. Nous témoignons visiblement devant tous de notre foi en Jésus-Christ, de notre Sauveur, de notre Seigneur. Il habite en nous, et c'est vrai qu'il n'habite pas des temples faits de main d'homme. Cependant, quand nous sommes réunis dans un endroit, il est là. Et le temple que nous aménagerons sera un endroit, un espace séparé du monde, uniquement réservé aux ordonnances du baptême, du scellement des familles et toutes ces ordonnances sacrées que nous avons reçues dans le rétablissement de toutes choses. Et aucun inconverti n'y entrera. Même aucun chrétien incrédule n'y entrera. Il n'y a qu'une sorte de personne qui pourra entrer, ce seront les autorités légales. S'ils désirent voir ce qui se passe, eh bien, ils pourront rentrer parce qu'il faut être soumis aux autorités. Mais moi, je ne veux pas des incrédules qui viennent pour assister au baptême pour les morts ou à la célébration des scellements pour les familles et puis qui sortent de là, puis qui rigolent, puis gna 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 gna, ah, puis t'as vu, puis gna gna gna. Non. Mais, en fait, n'entreront dans le temple que ceux qui en seront dignes. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire des disciples qui ont une vie conforme à l'enseignement de Jésus, qui croient au rétablissement des ordonnances et qui serviront dans le temple. Alors il est certain que ceux qui veulent ignorer que nos intentions sont bonnes, ils critiqueront, ils se moqueront, ils diaboliseront, ils diront tout ce qu'ils voudront, autant qu'ils nous jugent et qu'ils nous condamnent. Aujourd'hui, ils continueront à le faire. Mais bon, on ne va pas passer notre vie à s'occuper de leurs opinions. Libre à eux de recevoir des milliers de convertis à leur portail, qui vont venir se convertir, n'est-ce pas? Et puis qui, ces milliers de personnes entreront dans leur salon et nous nous réjouirons pour eux. De notre côté, ayant été séparés des incrédules, nous pourrons enfin servir Dieu librement, loin de leur sarcasme, loin de leur jugement, loin de leur menace de mort aussi, parce qu'il faut savoir qu'ils ont prononcé des sentences de mort contre nous. Oui, Élie est venu. Oui, il a rétabli toutes choses. Et oui, nous savons maintenant que ce n'est pas William Branham. Il avait l'esprit d'Élie, mais ce n'était pas Élie. Oui, nous savons qu'Élie est venu pour accomplir la prophétie de Malachie 4, 5, 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Sinon, le pays, la terre sera frappée d'interdit. Nous croyons que nos ancêtres vivent dans un endroit appelé le monde des esprits. Et là, ils ont l'occasion de connaître et d'accepter l'évangile de Jésus-Christ selon 1 Pierre 4, 6. mais ils ne peuvent pas recevoir les ordonnances de l'Évangile pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas progresser tant que personne ne leur fournit la possibilité de bénéficier de ces ordonnances. Nous avons la bénédiction et la responsabilité de faire ce don à nos ancêtres. Voilà pourquoi les premiers chrétiens dans l'Église primitive, et c'est écrit dans la Bible, se faisaient baptiser pour les morts. Nous avons la bénédiction et la responsabilité de faire ce don à nos ancêtres en cherchant leur nom, en veillant à ce que les ordonnances soient accomplies en leur faveur, et alors, là-bas, là où ils sont, ils pourront choisir d'accepter ou de refuser les ordonnances qui ont été accomplies dans ces endroits que nous consacrerons pour cela et que nous appellerons temple. Ces choses sont sacrées. Elles doivent être faites dans un espace séparé du monde. La signification du mot temple, c'est séparé du monde. Espace séparé du monde. Une place pour chaque chose. Personne, à moins d'être très sale, ne préparerait la nourriture sur la cuvette des WC. Personne, à moins d'être malade, mental, ne louerait un cinéma porno pour faire un culte le dimanche matin. Les clés du pouvoir de scellement des familles ont été conférées à Élie pour rapprocher le cœur des pères et des enfants à leurs pères, et nous avons reçu ces clés. Et nous comptons continuer à les utiliser. Loin des incrédules, loin des moqueurs, loin des condamnateurs, loin des jugeurs mesquins. Dieu avait donné à Élie le plus grand pouvoir que Dieu puisse donner à ses enfants. Il détenait le pouvoir de scellement, le pouvoir de lier sur la terre de telle façon que ce soit lié au ciel. Et le Seigneur a tenu sa promesse d'envoyer Élie. Et voici qu'Élie a déclaré, « Voici le temps est pleinement arrivé pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. » C'est curieux, mais c'est à cette époque, là où il a dit ça, que même les gens du monde se sont mis frénétiquement à faire des recherches généalogiques, ce qui nous est très utile puisque nous n'avons qu'à puiser dans leurs recherches pour pouvoir faire ce que nous avons à faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre nos mains. On ne va pas bricoler avec le sacré. On ne va pas bricoler avec le sacré. C'est avec joie que nous nous séparons des incrédules jugeurs, accusateurs, qui souhaitent notre mort. Et s'ils réussissent, nous sommes très contents. S'il y a des milliers de personnes qui viennent, ce sera certainement pas au portail du château parce qu'il va être vendu, mais au portail de leur pavillon de banlieue ou je ne sais pas quel portail, eh bien, nous nous réjouirons parce que ce que nous voulons, c'est ce que l'apôtre Paul disait, pourvu que l'évangile soit prêché, c'est ça qui compte. Nous, vous savez, l'évangile, nous le prêchons. Ça fait maintenant, depuis 1968, je n'ai cessé de prêcher l'évangile. J'ai parcouru plus de 70 pays, qu'ils en fassent autant. Ils sont jeunes encore, qu'ils le fassent. Après, ils viendront critiquer. Après viendront juger. Voilà mes frères et sœurs, je voulais dire ça parce que je voulais que vous sachiez pourquoi nous faisons les choses telles que nous les faisons. Nous voulions faire le temple ici, au château sanctuaire. Nous avions fait les plans, nous avons fait la demande et cela nous a été accordé. Et c'est là que le scandale a éclaté. Alors, nous ne voulons pas la guerre et comme ils ne veulent pas partir, eh bien nous partons. Et étant donné que nous partons, nous sommes bien obligés de partir parce que sans nous, c'est pas possible de vivre ici. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Vous êtes mes chers amis qui venez écouter sur Internet les choses que je vous dis de la part du Seigneur. Et là, je vous ai dit quelque chose qui concerne notre communauté. Je vous l'ai dit du fond de mon cœur afin que vous sachiez et que vous ne vous borniez pas à écouter seulement la voix de ceux qui critiquent, qui jugent et qui condamnent. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est là ma prière, c'est que Dieu bénisse chacun, chacune de ceux qui entendent cela. Et qu'ils sachent que quand on est abattu, eh bien, tu es toujours là pour nous renouveler, pour nous relever. Et je te remercie, mon Dieu, de ce que tu le fais, et tu le fais toujours. Comme disait David dans ce psaume 138 et au verset 3, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.